السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت سعد بن عبادة کا ذکر.
Dans mes précédents sermons, j'avais évoqué Sa'd bin Ubada. Je mentionnerai la dernière partie à son propos dans le sermon d'aujourd'hui. Après le décès du saint prophète Mohammed, les Ansar avaient proposé de leur part le nom de Sa'd bin Ubada comme calife. Dans son ouvrage « Siratrat Munabiyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que les Ansar insistaient pour que Sa'd bin Ubada soit choisi comme calife. Il était d'ailleurs le chef de sa tribu. L'élection d'Abu Bakr comme calife a ébranlé un tant soit peu Sa'd, du fait que les Ansar souhaitaient l'élire comme calife. Hazrat Muslim Maud Radhutalanhu a expliqué ce sujet en détail et il a aussi mentionné l'importance du califat dans ce contexte. Selon moi, ces explications sont très importantes et sont très opportunes. Avant de citer le Muslim Maud radhiyallahu anhu, je présenterai les hadiths et les récits historiques. Humayd bin Abdurrahman relate que lorsque le saint prophète Mohammed est décédé, Abu Bakr était dans les environs de Médine. À son retour, il a enlevé le vêtement qui recouvrait le visage béni du saint prophète et il a embrassé son visage béni. Et il a déclaré que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vivant ou mort, vous êtes éminemment purs. Ensuite, il a déclaré par le Seigneur de la Kaaba, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ensuite, Abu Bakr et Umar se sont dirigés rapidement vers la Saqifa Banu Sa'da. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Abu Bakr a commencé à parler. Il a cité tous les versets révélés sur les Ansar. Et il a mentionné aussi toutes les excellences évoquées par le saint prophète Mohammed concernant les Ansar. Ensuite, Abu Bakr a déclaré: vous savez ce qu'avait déclaré le saint prophète Mohammed lui. Il avait déclaré que si les gens marchaient dans une vallée et que les Ansar marchaient dans une autre vallée, eh bien, j'aurais accompagné les Ansar. Ensuite, en s'adressant à Sa'd bin Ubada, Abu Bakr lui a dit: « Ô Sa'd, tu étais assis lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Le califat demeurera parmi les Quraïchites. » Les vertueux parmi les Quraïchites suivront les vertueux de parmi les Quraïchites et les vicieux de parmi les Quraïchites suivront les vicieux de parmi les Quraïchites. » Sa'd a répondu: « Vous dites la vérité, nous sommes les vizirs et vous êtes les émirs. » Ce récit est tiré de Musnad Ahmad bin Hanbal. Selon Tabaqatul Kubra, après le décès du saint prophète Mohammed, Abu Bakr a envoyé un message à Sa'd bin Ubada et il lui a demandé de venir lui prêter allégeance, car les autres l'avaient déjà fait et les Ansar aussi lui avaient prêté allégeance. Sur ce, Sa'd a répondu: « Par Allah, je ne prêterai pas allégeance tant que je ne lance pas toutes les flèches de mon carquois sur ceux qui m'ont renié. » Et tant que vous ne combattez pas ceux qui me suivent parmi ma tribu. » Lorsque le calife Abu Bakr a reçu cette nouvelle, Bashir bin Sa'd lui a dit au calife du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Il vous a répudié et il persiste. Et il ne va pas vous prêter allégeance même si on doit le tuer. » Et on ne peut pas le tuer tant qu'on ne tue pas ses enfants ainsi que toute sa tribu. Et on ne pourra pas tuer tous ces gens tant qu'on ne tue pas la tribu Khazraj tout entière. Et on ne peut pas tuer toute la tribu Khazraj sans éliminer la tribu Daous. Ne prenez pas de mesures contre lui, étant donné que l'affaire est réglée aux yeux de la population. Il ne pourra pas nuire à votre personne. C'est-à-dire que la majorité des Ansar avaient prêté le serment d'allégeance au calife Abu Bakr. Cela ne fait pas de différence si Sa'd bin Ubada ne l'a pas encore fait, car il est un homme seul abandonné. Abu Bakr a accepté le conseil de Bashir bin Sa'd et n'a pris aucune mesure contre Sa'd bin Ubada. Un jour après son élection comme calife, Omar a rencontré Sa'd en cours de route. Omar et Ubada ont commencé à converser. Omar lui a dit: « Tu n'as pas changé ?» Sa'd a répondu: « Oui, je n'ai pas changé. » Vous avez eu le califat et les gens vous ont prêté allégeance, mais moi, je ne vous ai pas prêté allégeance. Ensuite, Sa'd a ajouté: par Dieu, nous aimions Abu Bakr, votre compagnon, plus que vous. Voilà ce qu'il a dit au calife Omar, c'est-à-dire: nous aimions Abu Bakr plus que vous. Ensuite, Sa'd a ajouté: par Dieu, je ne souhaite pas vivre dans votre voisinage. Omar radiallahu anhu lui a répondu: celui qui n'aime pas son voisinage doit quitter cet endroit. Sa'd a répondu: je le ferai certainement. Je me rends auprès d'un voisinage qui est meilleur que le vôtre. Et après quelque temps, au début du califat d'Omar, Sa'd est parti s'établir en Syrie. Ce récit est tiré de Tabaqatul Kubra. On raconte aussi que Sa'd bin Ubada aurait prêté allégeance à Abu Bakr. Selon Tabari, toute la population avait prêté tour à tour allégeance au calife Abu Bakr et Sa'd en avait fait de même. Ce récit est tiré de Tabari. Tout comme je l'ai dit, les explications de Hazrat Muslim Maud radio Talanho couvrent plusieurs aspects de cet épisode. Hazrat Muslim Maud explique la nécessité de prêter allégeance au califat, le statut du califat, ainsi que la portée des actions de Saad. Dans un de ses sermons, il explique que le terme « qatal » signifie aussi l'ostracisme, c'est-à-dire couper toute relation avec une personne. Après le décès du saint prophète Mohammed, une dissension éclata entre les compagnons au sujet du califat. Les Ansar croyaient que le califat leur revenait de droit, étant donné qu'ils étaient originaires de la région. Ils disaient que si un calife était choisi parmi les émigrants, un autre devait être choisi parmi les Ansar, c'est-à-dire qu'on devait avoir deux califes. Les Banu Hashim pensaient que le califat leur revenait de droit étant donné que le saint prophète, paix soit sur lui, appartenait à leur famille. Les émigrants souhaitaient que le calife soit issu des Qurayshites, car les Arabes n'étaient pas prêts à accepter personne d'autre hormis un Qurayshite. Mais ils ne présentaient pas un nom particulier, ils souhaitaient que le calife soit élu. La personne élue par les musulmans sera considérée comme le calife choisi par Allah. Les Ansar et les Banu Hashim étaient d'accord avec leur opinion, sauf un compagnon qui n'avait pas saisi ce point. Les Ansar voulaient en effet choisir ce compagnon comme calife. Peut-être qu'ils croyaient que cette opinion était un affront contre sa personne ou qu'ils n'avaient pas compris leur argument. Il affirma qu'il n'était pas prêt à prêter allégeance à Abu Bakr. Selon certaines chroniques, Omar aurait déclaré « tuer Saad ». Uqtulu Saad, avait-il déclaré. Mais Omar ne l'avait pas tué de ses mains et personne d'autre ne l'avait fait. Certains experts en langue affirment qu'Omar recommandait tout simplement qu'on brise toute relation avec Saad. Selon d'autres récits historiques, Saad venait régulièrement à la mosquée. Il priait séparément, ensuite il rentrait chez lui. Et aucun compagnon ne lui adressait la parole. Ainsi, qatal signifie couper toute relation et se séparer du peuple. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique davantage ces événements concernant Saad bin Ubada. En référence à ce sermon que je viens de citer, Hazrat Muslim Maud a déclaré. J'avais mentionné un compagnon Ansari dans un précédent sermon. Après le décès du saint prophète Mohammed, certains Ansar souhaitaient que le calife soit choisi parmi les Ansar. Mais les Muhajirines, les émigrants et Abu Bakr en particulier, ont informé les compagnons que pareil choix ne sera pas avantageux pour les musulmans. Et que les musulmans ne seront pas satisfaits avec cette suggestion des Ansar. Sur ce, les Ansar et les Muhajirin ont décidé de prêter allégeance à un émigrant. Et tout le monde a choisi Abu Bakr à l'unisson. Ainsi, Abu Bakr et d'autres compagnons ont ramené les Ansar à la raison en leur disant que leur choix ne sera pas propice. En tout cas, ils ont décidé de choisir le calife de parmi les émigrants et tout le monde a choisi Abu Bakr comme calife. Hazrat Muslim Maud ajoute, quand Sa'd bin Obada hésitait à prêter allégeance au calife, Omar radiallahu anhu a déclaré « Oktulu Sa'd », c'est-à-dire « tuer Sa'd ». Mais Omar ne l'a pas tué, et aucun autre compagnon ne l'a fait d'ailleurs. Sa'd est resté vivant jusqu'à l'époque du califat d'Omar, et il est décédé en Syrie. Ainsi donc, les savants du passé ont déduit que Qatal ne signifie pas éliminer physiquement ici, mais cela signifie couper toutes les relations. Qatal comprend plusieurs sens dans la langue arabe. Dans la langue ourdou, qatal signifie certes l'élimination physique, mais en arabe, le terme qatal possède plusieurs acceptions. Et parmi les sens de qatal, il y a l'ostracisme, ou le fait de boycotter une personne. Les savants ont conclu qu'Omar ne parlait pas d'élimination physique, mais de boycott. C'est-à-dire le fait d'abandonner Sa'd et d'éviter toute conversation avec lui. Si Qatal signifiait tuer physiquement, eh bien Omar, qui était très colérique, l'aurait certainement tué de ses propres mains. Si Omar ne l'avait pas tué, pourquoi un autre compagnon ne l'avait-il pas tué? Omar ne l'avait pas tué à l'époque du califat d'Abu Bakr, et même au cours de son propre califat, il ne l'avait pas tué. Selon certains, Sa'd était encore en vie après le califat d'Omar et aucun compagnon ne l'avait touché. Cela démontre que Qatal signifie rompre toute relation et pas tuer physiquement. Certes, Sa'd s'était séparé des autres compagnons, mais personne ne lui avait causé du tort. Hazrat Muslim Maud déclare « J'avais expliqué que si l'on voit en rêve que l'on tue quelqu'un, cela peut signifier aussi l'ostracisme ou le boycott. » Hazrat Muslim Maud ajoute « Un ami m'a dit, après le sermon, que quelqu'un lui avait dit que même si Sa'd n'avait pas prêté le serment d'allégeance, on le consultait pour ses avis. » C'est-à-dire, en dépit que Sa'd n'avait pas prêté le serment d'allégeance, le calife Abu Bakr lui demandait ses avis. Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, commente « L'on peut déduire deux points de cette opinion. Soit cette personne rejette mon explication du terme « qatal ». Soit cette personne rejette mon explication du terme « qatal », soit que ne pas prêter allégeance au califat n'est pas gravissime. Car Sa'd a participé dans les conseils du calife en dépit du fait que Sa'd ne lui avait pas prêté le serment d'allégeance. Hazrat Muslim Maud a cité un vers en persan dans lequel le poète déclare que tant que l'homme n'ouvre pas sa bouche, ses défauts sont inconnus. Mais dès qu'il ouvre sa bouche, il dévoile ses défauts. C'est-à-dire, s'il est silencieux, ses péchés sont inconnus. Mais s'il dit des sottises, ses défauts sont dévoilés au grand jour. Celui qui dit que Sa'd participait dans les conseils du calife ou qui a commenté sur le sermon souhaite en fait minorer l'importance du serment d'allégeance ou faire montre de son érudition. Mais ces deux faits sont erronés. Il n'y a aucun avantage à faire étalage de sa connaissance, car toute personne intelligente se contentera de sourire en entendant de tels propos. Trois ouvrages sont très connus sur l'histoire de l'islam et tout récit sur les compagnons sont contenus dans ces trois ouvrages. Les titres de ces trois ouvrages sont Tahzib al-Tahzib, As-Saba et Asadul Ghaba. Ces trois ouvrages affirment que Sa'd se sépara des autres compagnons et qu'il se rendit en Syrie où il rendit l'âme. Certains ouvrages traitant sur la langue arabe ont cité cet incident pour expliquer le sens du terme ou du verbe « qatal ». Hadrat Muslim Maud déclare « Il existe entre 60 ou 70 compagnons qui portaient le nom de Sa'd, parmi lesquels on trouve Sa'd bin Abi Waqqas, qui était parmi les 10 bienheureux auxquels le paradis était promis. Le calife Omar l'avait nommé commandant en chef de l'armée et il était présent lors des consultations. Celui qui a objecté sur le sermon du Muslim Maud n'avait pas compris cela et dans son ignorance, il n'a pas compris que des personnes différentes portaient le nom de Sa'd. Dans son empressement, il a commenté sur mon sermon. Je n'avais pas mentionné Sa'd bin Abi Waqqas, déclare Hadrat Muslim Maud. Sa'd bin Abi Waqqas, qui était un émigrant, mais j'avais mentionné un autre Sa'd qui était un Ansari. En sus de ces deux-là, il existait entre 60 ou 70 personnes qui portaient le nom de Sa'd. Et le compagnon concerné se nommait quant à lui Sa'd bin Obada. Il y avait très peu de noms chez les Arabes, et dans un village, l'on pouvait trouver plusieurs personnes portant le même nom. Quand on évoquait un individu en particulier, on mentionnait aussi le nom de son père. Par exemple, on ne disait pas Sa'd ou Saïd, mais on a posé le nom du père en disant Sa'd bin Ubada, Sa'd le fils d'Ubada ou Sa'd le fils d'Abi Waqqas. Si la personne n'était pas identifiable par le nom du père, on mentionnait son statut où on mentionnait le nom de sa tribu. Il y a de grands débats à propos d'un certain Sa'd, étant donné la ressemblance du nom avec celui d'autres individus, les historiens apportaient des précisions en disant qu'il s'agissait de tel ou tel Sa'd, ou du Sa'd appartenant à la tribu Khazraj, par exemple. Celui qui a soulevé cette objection n'a pas saisi cette question de similarité entre les noms. Pareille objection n'accroît pas la connaissance, mais dévoile au grand jour l'ignorance de la personne. Hazrat Muslim Maud ajoute, « L'on ne mérite aucun honneur lorsqu'on se sépare du califat. » J'ai entendu le premier calife ici même dans cette mosquée, dit Hazrat Muslim Maud. Il s'agit probablement de la mosquée Aqsa Akkadian. Hazrat Muslim Maud déclare, le premier calife de la communauté a posé la question suivante. Savez-vous qui était l'ennemi du premier calife de l'histoire? Et le premier calife lui-même a répondu en disant, lisez le Saint-Coran et vous saurez qu'Iblis était son ennemi. Quand Allah a choisi Adam comme calife, eh bien, Iblis est devenu son ennemi. Le premier calife de la communauté a déclaré, « Je suis moi aussi calife, et celui qui est mon ennemi est Iblis. » Hazrat Muslim Maud ajoute, « Certes, un calife n'est pas ma'mour, c'est-à-dire qu'il n'est pas mandaté directement par Dieu, à l'instar d'un prophète. Or, il peut l'être dans certains cas. » Adam était un mamour, était mandaté par Dieu directement, et il était aussi un calife. David était à la fois mamour et était un calife. De même, le Messie premier l'Islam était un mamour, c'est-à-dire il a été mandaté directement par Dieu, et il était aussi un calife. D'ailleurs, tous les prophètes sont des mamours et des califes mandatés directement par Dieu. Chaque être humain est un calife, tout comme le sont les prophètes. Or, il existe aussi des califes qui ne sont pas mandatés directement par Dieu, qui ne sont pas des marmours. Mais on doit obéissance à ces califes tout comme on doit obéissance à l'égard des prophètes. Mais il existe quand même une différence entre ces deux types d'obéissance. On voue obéissance à un calife parce qu'il est le centre de la révélation divine et parce qu'il est le centre de la pureté. Cependant, on ne doit pas obéissance à un calife parce qu'il est le centre de la révélation divine et de toute pureté. On lui voue obéissance parce qu'il est l'exécutant de la dite révélation divine reçue par le prophète et parce qu'il est le centre de toute l'organisation. C'est-à-dire que le calife est celui qui fait appliquer la révélation reçue par le prophète. Et c'est lui qui gère l'organisation établie par le prophète. C'est pour cette raison que les savants disent que les prophètes disposent de l'ismate kubra, c'est-à-dire de la grande infaillibilité, et que les califes disposent de l'ismate sughra, c'est-à-dire de la petite infaillibilité. Hazrat Muslim Maud déclare dans cette même mosquée acadienne, sur cette même chaire d'où je prononce ce sermon, le premier calife a prononcé ces paroles que j'ai entendues de mes oreilles, les paroles qu'il a prononcées un vendredi. Il a déclaré « Vous ne pourrez vous affranchir de l'obéissance que vous me devez en raison d'une lacune résultant d'une action personnelle de ma part. » C'est-à-dire, si vous trouvez un défaut chez moi, dans mes œuvres personnelles, cela ne signifie pas que vous pourrez me désobéir. Vous ne pourrez pas vous affranchir de l'obéissance que Dieu vous a imposée, car ma mission à moi est spéciale. Ma mission vise à unir toute l'organisation de la communauté, d'où l'importance de m'obéir. Pour ce qui est des prophètes, hormis dans ces cas, pouvant nuire à l'unicité divine ou à leur mission, Allah n'intervient pas lorsqu'ils commettent des fautes en raison de leur faiblesse humaine, car ces incidents sont nécessaires en fait pour l'éducation de l'Oumma. À titre d'exemple, l'on doit accomplir la prosternation de l'oubli suite à un oubli lors de la Salah. Le prophète peut commettre pareille erreur dans la Salah afin de démontrer dans la pratique l'enseignement ayant trait aux prosternations de l'oubli. Le saint prophète Mohammed lui avait commis pareille erreur lors de sa salat et il avait accompli la prosternation de l'oubli. Or, toutes ces actions des prophètes jouissent de la protection divine. Pour ce qui est des califes, chacune de leurs actions visant au progrès de la communauté jouiront de la protection divine et ils ne commettront pas d'erreur à cet égard. Même s'ils commettent des erreurs, ils ne persisteront pas dans cette voie susceptible de nuire à la jamaat et ces actions qui sont susceptibles de transformer le triomphe de l'islam en échec. Toute tâche du calife de l'époque visant à renforcer l'organisation et le parachèvement de l'islam jouira de la protection de Dieu. Et si jamais le calife commet des erreurs à cet égard, Allah en personne y apportera des rectifications. En somme, les actions du calife concernant la nizam, l'organisation de la communauté, sont sous la responsabilité de Dieu et non sous la sienne. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est Dieu lui-même qui choisit son calife. Cela ne signifie pas que le calife ne peut pas commettre d'erreur. Dieu corrigera cette erreur par les propos du calife ou par ses actions. S'il n'a pas rectifié cette erreur par les propos du calife ou ses actions, il transformera les conséquences néfastes de cette action ou en préservera la nizam. Si la sagesse divine souhaite que le calife commette une action pouvant nuire en apparence aux musulmans ou susceptible de faire régresser la jamaat, eh bien, Allah en personne dissipera les conséquences néfastes de cette action par des moyens fort secrets et il favorisera ainsi le progrès de la jamaat et ne poussera pas la jamaat vers la décadence. La sagesse secrète motivant cet oubli ou cette négligence du calife s'accomplira. Cependant, les prophètes, quant à eux, sont couverts par l'ismate kubra et l'ismate sughra, c'est-à-dire par la grande et la petite infaillibilité. Ils sont à la fois le centre exécutif de la nizam et celui de la révélation et de la pureté. Or, il n'est pas nécessaire que tout calife soit le centre de toutes les œuvres pieuses, de toute action de pureté. Il se peut que d'autres aouliyas les aient dépassés dans l'accomplissement de certaines actions pures ou dans le domaine de la pureté. Certains califes peuvent être le centre de toutes les actions pieuses et être le centre de la nizam. Or, il se peut que d'autres califes soient un degré moindre dans la pureté et dans la wilaya que les autres. Mais ces califes sont meilleurs que les autres dans leur capacité de gestionnaire. Or, chacun doit obéissance à tous ces califes en toutes circonstances, car la nizam est liée jusqu'à un certain point à la politique de la jamaat. Les gens sursauteront peut-être en entendant la phrase « la politique de la jamaat » et certains se demanderont ce qu'il en est. Dans la langue et l'usage courant, le mot « politique » a un sens négatif et le mot « politique » est utilisé au sens négatif. Certains hommes politiques ont terni le sens du terme « politique ». Le mot « politique » est synonyme à présent de tromperie, de léser autrui ou de négliger ses devoirs. Or, la politique, selon les dictionnaires, signifie la bonne gestion d'une organisation ou le recours à de bonnes stratégies. La politique signifie aussi la prévention contre le mal, le maintien de l'organisation, le recours à l'intelligence et à la sagesse dans l'administration. La politique signifie aussi la bonne gestion des relations internationales. Ceux-ci sont donc les sens premiers du mot politique. Il s'agit donc d'un terme comportant des connotations positives. Mais malheureusement, nous avons oublié ces sens premiers en raison des actions condamnables de certains politiciens. Et nous en déduisons des sens négatifs. En tout cas, Hazrat Musleh Maud, radhiyallahu anhu, a utilisé ce mot au sens positif et on comprend toutes ses significations, dont le fait d'user son intelligence, sa sagesse et ses aptitudes dans la gestion d'une organisation. Hazrat Musleh Maud déclare que, étant donné que la nizam, l'organisation de la communauté, est lié jusqu'à un certain point à la politique de la jamaat, la qualité première du calife est qu'il doit posséder une bonne maîtrise de la gestion. Tout en étant un très bon gestionnaire, le calife doit aussi affermir la foi et en expliquer le sens. Le calife doit administrer l'organisation de la jamaat et il doit aussi renforcer la foi et l'établir. C'est pour cette raison qu'Allah déclare ceci à propos du califat dans le Saint-Coran. Allah déclare à propos du califat « Wa la yumakkinanna lahum dinahum allazir tadwa lahum » C'est-à-dire, Allah renforcera leur foi et leur accordera la suprématie dans le monde. La religion que présentent les califes sera protégée par Dieu. Or, il s'agit de la protection moindre. Le calife peut commettre des erreurs sur des détails et il peut y avoir des différences d'opinion entre les différents califes. Mais ces différences concernent des faits mineurs. Par exemple, il y avait des différences d'opinion entre Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhu. Voir jusqu'aujourd'hui, la Oumma de l'islam n'est pas arrivée à un verdict unanime sur ces questions mineures. Mais ces différences concernaient que des faits mineurs. Il n'y aura jamais de différence d'opinion entre les califes sur les principes fondamentaux. Au contraire, ils auront le même avis. Ces califes serviront de guide pour l'humanité et l'éclaireront. Celui qui croit qu'il n'existe aucune différence entre celui qui a prêté allégeance au calife et celui qui ne l'a pas fait, n'a rien compris du serment d'allégeance et il n'a rien compris de la nizam. On peut demander l'avis d'un expert, que cet expert soit un croyant ou pas. À titre d'exemple, le Messie premier d'Islam avait pris un avocat anglais pour un procès, mais cela ne signifiait pas que le Messie premier d'Islam lui demandait conseil pour les affaires ayant trait à la Nubuwa. Avant la bataille du fossé, le saint prophète, paix soit sur lui, avait demandé l'avis de Salman le Persan sur les mesures défensives qu'on prenait dans son pays. Salman a expliqué qu'il creusait un fossé lors des sièges. Le saint prophète, paix soit sur lui, a apprécié sa suggestion et les musulmans ont creusé un fossé, d'où le nom de la bataille du fossé. Or, nous ne pouvons conclure que Salman, le Persan, maîtrisait mieux que le saint prophète, paix soit sur lui, lors de la guerre. Certainement, il ne pourra jamais égaler le saint prophète, paix soit sur lui, dans ce domaine ou dans d'autres domaines. Voir, aucun calife n'avait nommé Salman commandant en chef d'une armée en dépit du fait que Salman avait vécu longtemps. Ainsi, on peut demander conseil à un expert, même s'il n'appartient pas à notre religion. Hazrat Muslim Maud ajoute, « Lorsque j'étais malade, j'ai consulté des médecins anglais. » Mais cela ne signifie pas que je demanderai leur avis concernant des faits ayant trait au califat ou que je leur accorderai le statut des compagnons du Messie premier d'Islam, des compagnons que je consulte et dont je demande l'avis. Cela ne signifie pas que les avis des non-musulmans valent autant que ceux des compagnons du Messie premier d'Islam. Le statut de ces derniers est éminent. Dans le cas des médecins, j'ai demandé leur avis uniquement sur des questions de santé. C'est-à-dire qu'on a demandé l'avis d'un expert dans un domaine particulier. Ainsi donc, même si on avait demandé l'avis de Sa'd bin Obada sur un fait ayant trait à ce monde, étant donné son expertise en la matière, on ne peut pas affirmer qu'il était présent lors des conseils du calife. On ne trouve pas de récit authentique attestant de sa présence lors de ces conseils. La plupart des récits affirment qu'il avait quitté Médine pour s'établir en Syrie. Et selon les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, il avait coupé les ponts avec le centre de l'islam. C'est pour cette raison qu'il disait que les anges ou les djinns l'avaient tué lorsqu'ils ont su à propos de son décès. Cela sous-entend que selon les compagnons, Sa'd bin Obada n'avait pas connu une bonne fin. Certes, les anges donnent la mort à tout le monde, mais dire que les anges ou les djinns avaient pris sa vie signifie que les compagnons pensaient que Dieu avait pris sa vie pour un motif particulier. C'est-à-dire, étant donné qu'il était un compagnon de Badr, Dieu ne souhaitait pas qu'il soit coupable d'hypocrisie ou qu'il s'oppose au calife, car cela l'aurait déchu de son statut de compagnon de Badr. Mais le fait demeure qu'il s'était séparé des compagnons. Hazrat Muslim Maud ajoute, l'on conclut de tous ces récits que les compagnons ne lui accordaient pas l'honneur qui lui revenait selon son statut. Ils n'étaient pas contents de lui. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils auraient dit que les anges ou les djinns l'ont tué? Voir certains compagnons ont utilisé des paroles plus dures après sa mort, des paroles que je ne peux pas répéter ici, dit Hazrat Muslim Maud. L'histoire de l'islam et ses préceptes démentent l'idée que l'on peut jouir de son statut au sein du système islamique, même sans avoir prêté allégeance au calife. Celui qui nourrit pareille idée en son cœur n'a pas la moindre compréhension du sens du serment d'allégeance. Sa'd bin Obada décéda à Djoran, en Syrie, plus d'un an après l'élection du calife Omar. Selon Allama ibn Hajar Asqalani, Sa'd décéda à Basra, en Syrie. Basra, la première ville que les musulmans avaient conquise en Syrie. Selon les récits, on a su à propos de sa mort à Médine par un jour de grande chaleur, quand des jeunes plongeaient dans le puits nommé Bir Monabé ou Bir Sakan. En plongeant dans ce puits, l'un des jeunes a entendu une voix qui disait ceci. Nous avons tué Sa'd bin Obada, le chef des Khazraj, et nous lui avons envoyé deux flèches qui lui ont atteint le cœur. Les jeunes ont eu peur et les gens se sont souvenus de ce jour. Et par la suite, ils ont constaté qu'il s'agissait en effet du jour de la mort de Sa'd. Sa'd était en train d'uriner quand on l'a tué et il est mort sur le coup. Il a rendu l'âme au cours du califat d'Omar. Les avis divergent sur l'année de son décès. On dit qu'il est décédé le 14, le 15 ou le 16 de l'Hégire. Selon Tabaqatul Kubra, la tombe de Sa'd se trouve dans le village de Maniha, tout près de Damas, dans la région de Nashibi. Je voudrais à présent mentionner deux personnes décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier défunt se nomme Sayyid Mohammad Sarwar Shah Saheb, qui était membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Il est décédé le 8 janvier dernier à l'âge de 85 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Atteint d'un cancer depuis un certain temps, il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance face à la maladie. Et jusqu'à la fin de ses jours, il s'est acquitté de ses devoirs de la meilleure façon. Sa maladie n'a pas entravé son travail. Le défunt est né dans une famille Ahmadie sincère de Mawzu Sungra dans la province d'Orisha. Hazrat Sayyid Abdurrahim, son arrière-grand-père maternel, était un compagnon du Messie premier d'Islam et son grand-père maternel, qui se nommait Molvi Abdulalim, était un grand savant religieux et un poète. Avant la naissance du défunt, son père avait demandé à son beau-père quel nom devait-il donner à son enfant. Le grand-père maternel du défunt a déclaré « J'ai vu en rêve que Sayyid Sarwar Shah Saheb nous a visités à la maison. Nomme donc l'enfant Sayyid Sarwar. » Le défunt a complété ses études élémentaires. Ensuite, il a travaillé comme maître d'école dans une école privée et il a occupé le poste d'assistant dans un tribunal à Orisha. Et il a aussi occupé le poste d'auditeur. En 96, le quatrième calife lui avait confié certaines tâches et lui en avait confié la responsabilité. Le défunt a eu l'occasion d'accomplir l'Umra. Feu le quatrième calife l'avait nommé auditeur central et l'avait nommé unique responsable de plusieurs commissions. Le défunt a servi au poste d'auditeur jusqu'à la fin de ses jours. Il a aussi servi pendant 9 ans comme président du comité de la CASA, ainsi que président et membre de plusieurs autres comités sans trop importants. Il était jusqu'à son décès membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Le défunt était un fin administrateur et il a servi en tant qu'auditeur central pour de nombreuses années. Feu, le quatrième calife, lui avait dit dans une lettre « Vous êtes en train d'accomplir un très bon travail. Jazakumullah ahsan al-jaza. J'ai fort apprécié votre fermeté à exprimer la vérité. Par la grâce d'Allah, vous êtes très méticuleux et très vigilant sur des points importants. Continuez votre travail sur cette ligne. Personne ne pourra entraver votre tâche. » Et le calife avait aussi prié pour sa santé et sa longévité. Le Nazim de la Darul Qaza relate « Le défunt faisait montre d'une grande affection à l'égard du personnel de la Qaza. Il tentait de rendre des verdicts dans les plus brefs délais. Il étudiait chaque cas minutieusement et tentait de rendre le verdict le plus juste. Il était quelqu'un de très avisé et quelqu'un qui est très perspicace. Il demandait toujours la direction de Dieu pour des cas sensibles. » Le docteur Tariq est le gendre du défunt. Il est conseiller médical de l'hôpital Nour de Qadian. Il relate que le défunt accomplissait ses prières tahajjud régulièrement et faisait ses prières à l'heure à la mosquée Moubarak. Il s'y rendait avec le soutien des autres quand il n'arrivait plus à marcher tout seul. Il était toujours à l'heure et au premier rang pour la prière de Jumma. Et il demeurait dans la mosquée entre les prières de Maghrib et d'Isha afin d'accomplir des prières facultatives. Et il se consacrait aussi au souvenir de Dieu. Le Nazire Allah de Qadian relate de même que le défunt possédait de nombreuses qualités. Il était très convivial, avait un très grand sens de l'hospitalité et il était un travailleur infatigable. Il était bienveillant envers les pauvres, obéissant envers ses supérieurs et très proche du califat. De même, il encourageait les autres à se rapprocher du califat. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Tous ses fils et ses filles œuvrent en faveur de la Jamaat. Son fils cadet, Sayyid Mahmoud Ahmad Nour, est en train de servir en tant que pharmacien à l'hôpital Nour de Qadian. Ses deux gendres, Sayyid Tanwir Ahmad et le docteur Tariq Ahmad, sont des Waqf Zindagi et sont en train de servir à Qadian. Son dernier gendre, Sayyid Hassan Khan, travaille bénévolement pour la Jamaat depuis qu'il est retraité. Tant que feu Misa Wassim Ahmad Sab était le Nazir Allah de Qadian, le défunt faisait les audits en faisant montre d'une grande déférence et il lui posait les questions nécessaires. Le défunt avait l'habitude de dire que dans tout Qadian, il n'y avait personne qui offrait plus d'amour que Mian Sab. Le défunt résidait à la Darul Masi et Mian Wassim Sab s'occupait de lui. Parfois, Chassa pleurait en se souvenant de son amour et de sa gentillesse. Il avait un grand respect pour les derviches de Qadian. Lui-même vivait modestement tel un derviche. Il aimait aussi les étudiants de la Jamia et avait un grand respect pour les savants de la communauté. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses enfants de suivre sa voie. La deuxième prière funéraire sera celle de Mme Shaukat Gohar Sahiba, qui était l'épouse du docteur Latif Ahmad Qureshi de Rabwa. La défunte était aussi la fille du feu Maulana Abdul Malik Khan. Elle est décédée le 5 janvier dernier à l'âge de 77 ans à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, la défunte était moussi. Elle était née à Agra, où son père, Maulana Abdul Malik Khan, a été envoyé comme missionnaire. Par la suite, elle a vécu avec ses parents à Hyderabad, à Deccan. Et après la création du Pakistan, elle a déménagé à Karachi, où elle a débuté ses études. Elle était très brillante et elle était toujours très bien classée. Elle a commencé à servir la communauté à un très jeune âge. Elle était secrétaire des Nasserat et avait fait en sorte que les Nasserat soient plus actives. Lorsque la défunte a épousé le docteur Latif Qureshi en 1961, il était encore étudiant à la faculté de médecine. Par la suite, le docteur Qureshi a immigré en Angleterre pour ses études et la défunte l'a accompagné ici. Après avoir terminé ses études ici, le docteur Latif a écrit au troisième calife qui lui a demandé de revenir au Pakistan afin de servir au sein de l'hôpital Fazl-e Umar. La défunte a accompagné son mari à Rabwa de gaieté de cœur et elle a eu l'opportunité de servir la communauté là-bas. Elle a beaucoup aidé les Lajna et à cette époque, je pense que toute personne, toute femme et toutes les filles étaient au courant des services qu'elle rendait. Lorsque ma mère, Saïbzadi Nasira Begum, était présidente de l'Ajna, elle avait nommé la défunte secrétaire générale de la Majlis Amla. La défunte a servi à ce poste pendant 15 ans. Et la défunte s'était formée auprès de ma mère. Et ceci lui a permis d'acquérir de bonnes compétences en gestion, compétences qu'elle a mises à contribution dans son travail. La défunte a également servi en tant que secrétaire dans l'Amla centrale. Je l'ai ensuite nommée secrétaire générale centrale pour le Pakistan. La défunte a servi pendant 6 ans à ce poste. Elle avait accompli un travail remarquable. Elle a dû arrêter de servir l'Elajina en raison de sa maladie, mais dès qu'elle en avait l'occasion, elle rendait des services. Elle a pu servir pendant 50 ans en différentes capacités. Toutes les filles et les femmes qui ont travaillé à ses côtés ont fait ses éloges. La défunte était bienveillante envers ses voisines. Elle s'occupait des pauvres et des nécessiteux. Elle avait un très grand sens de l'hospitalité et payait ses cotisations avec rigueur et au plus tôt. Elle possédait toutes ses qualités. Lorsque j'ai annoncé le début de l'année Waqfi Jadid cette année-ci, elle a payé sa cotisation aussitôt en intégralité. Elle est décédée le 5 janvier et l'annonce a été faite le 1er, soit quelques jours avant son décès. Elle a réglé aussitôt sa cotisation. Son époux, le docteur Qureshi, écrit ceci. « Au cours de notre mariage, qui a duré 50 ans, elle a rempli à merveille ses devoirs de femme, de mère, de sœur et de fille. Cependant, celui qui a relaté cela, ou le docteur Qureshi a oublié de mentionner le fait qu'elle était également une belle fille exemplaire. Il s'agit peut-être d'un oubli. Elle a vécu avec sa belle-mère et sa belle-famille, et elle a servi sa belle-mère tant qu'elle était toujours en vie, telle sa propre mère, même lorsqu'elle était malade. La défunte a quitté ce monde après avoir vécu une vie exemplaire. Sa maladie avait duré longtemps, mais en dépit de cela, elle s'occupait de son foyer. Elle ne s'est jamais plainte durant sa maladie et a fait preuve de grande patience. Elle avait une relation très profonde avec le califat. Elle laisse derrière elle son mari, le docteur Latif Qureshi, trois filles et deux filles. Deux de ses fils et l'une de ses filles sont médecins et son troisième fils est ingénieur. Ainsi, tous ses enfants ont fait de grandes études. La défunte les a poussés à étudier dans des circonstances difficiles. Une de ses filles lui a demandé un jour « Pourquoi ne portez-vous pas des bijoux ou n'achetez-vous pas de beaux vêtements ?» Elle a répondu « J'arrive ainsi à économiser de l'argent que je dépense sur vos études. » Vos études et le fait que vous soyez au service de la communauté, que vous soyez capable de vous occuper de vous-même, représentent mes bijoux et mes beaux vêtements. La défunte faisait des rêveries et avait des visions. Ses enfants ont relaté de nombreux rêves qui se sont accomplis. Sa fille envoyait ses candidatures dans des facultés de médecine. Et sur la base d'un de ses rêves, la défunte lui avait prédit dans quelle faculté elle allait être admise. Et sa fille a effectivement été admise dans cette même faculté. Elle avait fait de nombreux autres rêves prémonitoires. Par la grâce d'Allah, elle était une femme très pieuse. Elle a pris soin de ses sœurs. Son fils Abdul Malik écrit qu'elle passait son temps à servir la Jamaat. Plusieurs fois, elle a marché à pied du bureau d'Elajina jusqu'au bureau d'Arul Uloum en pleine chaleur. Et elle ne s'est jamais plainte. Le jour de l'Aïd, elle envoyait toujours des desserts qu'elle préparait à ses voisins proches et éloignés. Elle avait pour l'habitude de dire que si nous cramponnons à la religion, Allah ne nous abandonnera pas. Sa fille écrit « Après mon mariage, lorsque j'ai eu des enfants qui habitent maintenant aux États-Unis, elle me conseille toujours d'établir une relation d'amour et amicale avec mes enfants, afin de les préserver de l'environnement délétère existant aux États-Unis et dans d'autres pays, et de faire en sorte que mes enfants soient toujours attachés au foyer et qu'ils ne préfèrent pas sortir et passer du temps à l'extérieur. » Sa fille ajoute un jour à la faculté de médecine, des filles se sont liguées contre moi en raison du fait que j'étais Ahmadi et m'ont boycotté. J'ai téléphoné à ma mère et elle m'a consolé. Elle a dit, pourquoi pleures-tu? Les prophètes ont toujours été persécutés et tu as l'occasion de marcher sur cette voie. Sache que si tu es persécuté en raison de l'Ahmadiyya, Allah ne va pas t'abandonner et tu vas réussir. Sa fille ajoute qu'elle a réussi à tous ses examens. Et ces mêmes filles qu'il avait persécutées ont toutes échoué. Qu'Allah exalte le rang de la défunte et qu'il permette à ses enfants de suivre sa voie qu'ils fassent qu'ils soient pieux et vertueux et qu'ils soient des serviteurs de la religion et qu'ils soient proches du califat et fidèles envers le califat. Après la prière de Juma et la prière d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ